Chapitre 6. Prague, 27 mai 1833. Visite. J'avais grand besoin de mon lit. Mais le baron Capel, arrivé de Hollande, logeait dans une chambre voisine de la mienne, et il accourut. Quand le torrent tombe de haut, l'abîme qu'il creuse et dans lequel il s'engloutit, fixe les regards et rend muet. Mais je n'ai ni patience ni pitié pour les ministres dont la main débile laissa tomber dans le gouffre la couronne de Saint-Louis, comme si les flots devaient la rapporter. Ceux de ces ministres qui prétendent s'être opposés aux ordonnances sont les plus coupables. Ceux qui se disent avoir été les plus modérés sont les moins innocents. S'ils y voyaient si clair, que ne se retiraient-ils? Ils n'ont pas voulu abandonner le roi. Monsieur le Dauphin les a traités de poltrons. Mauvaise défaite. Ils n'ont pu s'arracher à leur portefeuille. Quoi qu'ils en disent, il n'y a pas autre chose au fond de cette immense catastrophe. Et quel beau sang-froid depuis l'événement! L'un écrivaille sur l'histoire d'Angleterre, après avoir si bien arrangé l'histoire de France. L'autre lamente la vie et la mort du duc de Reichstadt, après avoir envoyé à Prague le duc de Bordeaux. Je connaissais M. Capel. Il est juste de se souvenir qu'il était demeuré pauvre, ses prétentions ne dépassaient pas sa valeur. Il aurait très volontiers dit comme Lucien, « Si vous venez m'écouter dans l'espoir de respirer l'ambre et d'entendre le chant du cygne, j'atteste les dieux que je n'ai jamais parlé de moi en termes si magnifiques. » Par le temps actuel, la modestie est une qualité rare, et le seul tort de M. Capel est de s'être laissé nommer ministre. Je reçus la visite de M. le baron de Damas. Les vertus de ce brave officier lui avaient monté à la tête, une congestion religieuse lui embarrassait le cerveau. Il est des associations fatales. Le duc de Rivière recommanda en mourant M. de Damas pour gouverneur du duc de Bordeaux. Le prince de Polignac était membre de cette coterie. L'incapacité est une franc-maçonnerie dont les loges sont en tout pays. Cette charbonnerie a des oubliettes dont elle ouvre les soupapes et dans lesquelles elle fait disparaître les états. La domesticité était si naturelle à la cour que M. de Damas, en choisissant M. de la Villatte, n'avait jamais voulu lui octroyer d'autre titre que le titre de premier valet de chambre de Mgr le duc de Bordeaux. À la première vue, je me pris de goût pour ce militaire à croc gris, dogue fidèle, chargé d'aboyer autour de son mouton. Il appartenait à ces loyaux porte-grenades qu'estimait l'effrayant maréchal de Montluc, et dont il disait « Il n'y a point d'arrière-boutique en eux ». Monsieur de la Villatte sera renvoyé pour sa sincérité, non à cause de sa brusquerie. De la brusquerie de caserne, on s'en arrange. Souvent l'adulation au camp fume la flatterie d'un air indépendant. Mais chez le vieux brave dont je parle, tout était franchise. Il aurait retiré avec honneur sa moustache s'il avait emprunté dessus 30 000 piastres, comme Jean de Castro. Sa figure rébarbative n'était que l'expression de la liberté. Il avertissait seulement, par son air, qu'il était prêt. Avant de mettre au champ leur armée, les Florentins en prévenaient l'ennemi par le son de la cloche Martinella. Chapitre 7. Prague, 27 mai 1833. Metz. Général Czernicki. J'avais formé le projet d'entendre la messe à la cathédrale, dans l'enceinte des châteaux. Retenu par les visiteurs, je n'eus que le temps d'aller à la basilique des ci-devant jésuites. On y chantait avec accompagnement d'orgue. Une femme, placée auprès de moi, avait une voix dont l'accent me fit tourner la tête. Au moment de la communion, elle se couvrit le visage de ses deux mains et n'alla point à la sainte table. Hélas, j'ai déjà exploré bien des églises dans les quatre parties de la terre sans avoir pu dépouiller, même au tombeau du Sauveur, le rude cilice de mes pensées. J'ai peint à Ben Hamet, errant dans la mosquée chrétienne de Cordoue. Il entrevit au pied d'une colonne une figure immobile, qu'il prit d'abord pour une statue sur un tombeau. L'original de ce chevalier, qu'entrevoyait à Ben Hamet, était un moine que j'avais rencontré dans l'église de l'Escorial, et dont j'avais envié la foi. Qui sait cependant les tempêtes, au fond de cette âme si recueillie, et quelles supplications montaient vers le pontife saint et innocent. Je venais d'admirer, dans la sacristie déserte de l'Escorial, une des plus belles vierges de Murillo. J'étais avec une femme, elle me montra la première le religieux sourd au bruit des passions qui traversait auprès de lui le formidable silence du sanctuaire. Après la messe à Prague, j'envoyai chercher une calèche. Je pris le chemin tracé dans les anciennes fortifications et par lequel les voitures montent au château. On était occupé à dessiner des jardins sur ces remparts. L'euphonie d'une forêt y remplacera le fracas de la bataille de Prague. Le tout sera très beau dans une quarantaine d'années. Dieu fasse que Henri V ne demeure pas assez longtemps ici pour jouir de l'ombre d'une feuille qui n'est pas encore née. Devant dîner le lendemain chez le gouverneur, je crus qu'il était poli d'aller voir Madame la comtesse de Chautet. Je l'aurais trouvée aimable et belle quand elle ne m'eût pas cité de mémoire des passages de mes écrits. Je montai à la soirée de Madame de Guiche, j'y rencontrai le général Zernicki et sa femme. Il me fit le récit de l'insurrection de la Pologne et du combat d'Ostrolenka. Quand je me levai pour sortir, le général me demanda la permission de presser ma vénérable main et d'embrasser le patriarche de la liberté de la presse. Sa femme voulut embrasser en moi l'auteur du génie du christianisme. La monarchie reçut de grand cœur le baiser fraternel de la République. J'éprouvais une satisfaction d'honnête homme. J'étais heureux de réveiller à différents titres de nobles sympathies dans des cœurs étrangers, d'être tour à tour pressé sur le sein du mari et de la femme par la liberté et la religion. Lundi 27 au matin, l'opposition vient m'apprendre que je ne verrai point le jeune prince. Monsieur de Damas avait fatigué son élève en le traînant d'église en église aux stations du Jubilé. Cette lassitude servait de prétexte à un congé et motivait une course à la campagne. On me voulait cacher l'enfant. J'employais la matinée à courir la ville. À 5 heures, j'allais dîner chez le comte de Chautet. Chapitre 8. Dîner chez le comte de Chautet. La maison du comte de Chautet, bâtie par son père, qui fut aussi grand bourgrave de Bohême, présente extérieurement la forme d'une chapelle gothique. Rien n'est original aujourd'hui, tout est copie. Du salon, on a une vue sur les jardins. Ils descendent en pente dans une vallée. Toujours lumière fade, sol grisâtre, comme dans ces fonds anguleux des montagnes du Nord, où la nature décharnée porte la haire. Le couvert était mis dans le pleasure ground, sous des arbres. Nous dînâmes sans chapeau. Ma tête, que tant d'orages insultèrent en emportant ma chevelure, était sensible au souffle du vent. Tandis que je m'efforçais d'être présent au repas, je ne pouvais m'empêcher de regarder les oiseaux et les nuages qui volaient au-dessus du festin, passagers embarqués sur les brises et qui ont des relations secrètes avec mes destinées. Voyageurs, objets de mon envie, et dont mes yeux ne peuvent suivre la course aérienne sans une sorte d'attendrissement. J'étais plus en société avec ces parasites errants dans le ciel qu'avec les convives assis auprès de moi sur la terre. Heureux anachorète qui, pour d'apifère, aviez un corbeau. Je ne puis vous parler de la société de Prague, puisque je ne l'ai vue qu'à ce dîner. Il s'y trouvait une femme fort à la mode à Vienne, et fort spirituelle, assurait-on. Elle m'apparut aigre et sotte, quoiqu'elle eût quelque chose de jeune encore, comme ces arbres qui gardent l'été les grappes séchées de la fleur qu'ils ont portée au printemps. Je ne sais donc des mœurs de ce pays que celles du XVIe siècle, racontées par Bassompierre. Il aima Anna Esther, âgée de 18 ans, veuve depuis 6 mois. Il passa 5 jours et 6 nuits, déguisé et caché dans une chambre auprès de sa maîtresse. Il joua la paume dans Arcin avec Wallenstein. N'étant ni Wallenstein ni Bassompierre, je ne prétendais ni à l'Empire ni à l'amour. Les Esthères modernes veulent des Assuérus qui puissent, tout déguisés qu'ils sont, se débarrasser la nuit de leurs dominos. On ne dépose pas le masque des années. Chapitre 9. Prague, 27 mai 1833. Pentecôte. Le duc de Blacas. Au sortir du dîner, à 7 heures, je me rendis chez le roi, j'y rencontrai les personnes de la veille, excepté M. le duc de Bordeaux, qu'on disait souffrant de ses stations du dimanche. Le roi était à demi couché sur un canapé, et mademoiselle assise sur une chaise tout contre les genoux de Charles X, qui caressait le bras de sa petite fille en lui faisant des histoires. La jeune princesse écoutait avec attention. Quand je parus, elle me regarda avec le sourire d'une personne raisonnable qui m'aurait voulu dire « Il faut bien que j'amuse mon grand-papa ». « Chateaubriand !» s'écria le roi. « Je ne vous ai pas vu hier. »« Sire, j'ai été averti trop tard que votre majesté m'avait fait l'honneur de me nommer de son dîner. Ensuite, c'était le jour de la Pentecôte, jour où il ne m'est pas permis de voir votre majesté. »«
Comment cela ? » dit le roi.
« Sire, ce fut le jour de la Pentecôte, il y a 9 ans, que, me présentant pour vous faire ma cour, on me défendit votre porte. » Charles X parut ému. « On ne vous chassera pas du château de Prague. »«
Non, sire, car je ne vois pas ici ces bons serviteurs qui m'éconduisirent au jour de la prospérité. »
Le whist commença, et la journée finit. Après la partie, je rendis au duc de Blacas la visite qu'il m'avait faite. « Le roi, me dit-il, m'a prévenu que nous causerions. » Je lui répondis que le roi, n'ayant pas jugé à propos de convoquer son conseil, devant lequel j'aurais pu développer mes idées sur l'avenir de la France et la majorité du duc de Bordeaux, je n'avais plus rien à dire.
« Sa Majesté n'a point de conseil, répartit M. de Blacas avec un rire chevrotant et des yeux tout contents de lui. Il n'a que moi, absolument que moi. »
Le grand maître de la garde-robe a la plus haute idée de lui-même. Maladie française. À l'entendre, il fait tout, il peut tout. Il a marié la duchesse de Berry, il dispose des rois, il mène Metternich par le bout du nez, il tient Nesselrode au collet, il règne en Italie, il a gravé son nom sur un obélisque à Rome. Il a dans sa poche les clés des conclaves. Les 3 derniers papes lui doivent leur exaltation. Il connaît si bien l'opinion, il mesure si bien son ambition à ses forces, qu'en accompagnant Madame la Duchesse de Berry, il s'était fait donner un diplôme qui le nommait chef du Conseil de la Régence, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Et voilà comment ces pauvres gens comprennent la France et le siècle. Cependant, M. de Blacas est le plus intelligent et le plus modéré de la bande. En conversation, il est raisonnable. Il est toujours de votre avis.
Vous pensez cela ? C'est précisément ce que je disais hier. Nous avons absolument les mêmes idées.
Il gémit de son esclavage. Il est là des affaires. Il voudrait habiter un coin de la terre, ignoré pour y mourir en paix, loin du monde. Quant à son influence sur Charles X, ne lui en parlez pas. On croit qu'il domine Charles X. Erreur ! Il ne peut rien sur le roi. Le roi ne l'écoute pas. Le roi refuse ce matin une chose. Ce soir, il accorde cette chose sans qu'on sache pourquoi il a changé d'avis, etc. Lorsque M. de Blacas vous raconte ses balivernes, il est vrai. Parce qu'il ne contrarie jamais le roi. Il n'est pas sincère, parce qu'il n'inspire à Charles X que des volontés d'accord avec les penchants de ce prince. Au surplus, M. de Blacas a du courage et de l'honneur. Il n'est pas sans générosité, il est dévoué et fidèle. En se frottant aux hautes aristocraties et en entrant dans la richesse, il a pris de leur allure. Il est très bien né. Il sort d'une maison pauvre mais antique, connue dans la poésie et dans les armes. Le guindé de ses manières, son aplomb, son rigorisme d'étiquette, conservent à ses maîtres une noblesse qu'on perd trop aisément dans le malheur. Du moins, dans le muséum de Prague, l'inflexibilité de l'armure tient debout un corps qui tomberait. M. de Blacas ne manque pas d'une certaine activité. Il expédie rapidement les affaires communes. Il est ordonné et méthodique. Connaisseur assez éclairé dans quelques branches d'archéologie, amateur des arts, sans imagination et libertin à la glace, il ne s'émeut pas même de ses passions. Son sang-froid serait une qualité de l'homme d'État si son sang-froid n'était autre que sa confiance dans son génie, et son génie trahit sa confiance. On sent en lui le grand seigneur avorté, comme on le sent dans son compatriote Lavalette, duc d'Épernon. Où il y aura, où il n'y aura pas restauration. S'il y a restauration, M. de Blacas rentre avec les places et les honneurs. S'il n'y a pas restauration, la fortune du grand maître de la garde-robe est presque toute hors de France. Charles X et Louis XIX seront morts, il sera bien vieux, lui, M. de Blacas. Ses enfants resteront les compagnons du prince exilé, d'illustres étrangers dans des cours étrangères. Dieu soit loué de tout. Ainsi la Révolution, qui a élevé et perdu Bonaparte, aura enrichi M. de Blacas. Cela fait compensation. M. de Blacas, avec sa longue figure immobile et décolorée, est l'entrepreneur des pompes funèbres de la monarchie. Il l'a enterré à Hartwell. Il l'a enterré à Gand. Il l'a réenterré à Édimbourg. Et il la réenterrera à Prague ou ailleurs, toujours veillant à la dépouille des hauts et puissants défunts, comme ces paysans des côtes qui recueillent les objets naufragés que la mer rejette sur ses bords. Chapitre 10. Prague, 28 et 29 mai 1833. Incidence. Description de Prague, Tycho Brahe, Perdita. Le mardi 28 mai, la leçon d'histoire à laquelle je devais assister à 11 heures n'ayant pas lieu, je me trouvais libre de parcourir, ou plutôt de revoir la ville que j'avais déjà vue et revue en allant et venant. Je ne sais pourquoi je m'étais figuré que Prague était nichée dans un trou de montagne qui portait leur ombre noire sur un tapon de maisons chaudronnées. Prague est une cité riante, où pyramides de 25 à 30 tours et clochers élégants. Son architecture rappelle une ville de la Renaissance. La longue domination des empereurs sur les pays cisalpins a rempli l'Allemagne d'artistes de ces pays. Les villages autrichiens sont des villages de la Lombardie, de la Toscane ou de la terre ferme de Venise. On se croirait chez un paysan italien si, dans les fermes à grandes chambres nues, un poêle ne remplaçait le soleil. La vue dont on jouit des fenêtres du château est agréable. D'un côté, on aperçoit les vergers d'un frais vallon, à pente verte, enclos des murs dentelés de la ville, qui descendent jusqu'à la Moldau, à peu près comme les murs de Rome descendent du Vatican au Tibre. De l'autre côté, on découvre la ville traversée par la rivière, laquelle rivière s'embellit d'une île plantée en amont et embrasse une île en aval, en quittant le faubourg du Nord. La Moldau se jette dans l'Elbe. Un bateau qui m'aurait pris au pont de Prague m'aurait pu débarquer au pont royal à Paris. Je ne suis pas l'ouvrage des siècles et des rois. Je n'ai ni le poids ni la durée de l'obélisque que le Nil envoie maintenant à la Seine. Pour remorquer ma galère, la ceinture de la Vestale du Tibre suffirait. Le pont de la Moldau, bâti en bois en 795 par Mnata, fut à diverses époques refait en pierre. Tandis que je mesurais ce pont, Charles X cheminait sur le trottoir. Il portait sous le bras un parapluie. Son fils l'accompagnait comme un cicérone de louage. J'avais dit dans le Conservateur qu'on se mettrait à la fenêtre pour voir passer la monarchie. Je la voyais passer sur le pont de Prague.
dans les constructions qui composaient Hatchin, on voit des salles historiques, des musées que tapissent les portraits restaurés et les armes fourbies des ducs et des rois de Bohême. Non loin des masses informes, se détache sur le ciel un joli bâtiment vêtu d'un des élégants portiques du Cinquecento. Cette architecture a l'inconvénient d'être en désaccord avec le climat. Si l'on pouvait, du moins, pendant les hivers de Bohême, mettre ces palais italiens en serre chaude avec les palmiers, j'étais toujours préoccupé de l'idée du froid qu'ils devaient avoir la nuit. Prague, souvent assiégé, pris et repris, nous est militairement connu par la bataille de son nom et par la retraite où se trouvait Vauvenargues. Les boulevards de la ville sont démolis. Les fossés du château, du côté de la haute plaine, forment une étroite et profonde entaille, maintenant plantée de peupliers. À l'époque de la guerre de 30 ans, ces fossés étaient remplis d'eau. Les protestants ayant pénétré dans le château le 23 mai 1618, jetèrent par la fenêtre deux seigneurs catholiques avec le secrétaire d'État. Les trois plongeurs se sauvèrent. Le secrétaire, en homme bien appris, demanda 1000 pardons à l'un des deux seigneurs d'être tombé malhonnêtement sur lui. Dans ce mois de mai 1833, on n'a plus la même politesse. Je ne sais trop ce que je dirais en pareil cas, moi qui ai cependant été secrétaire d'État. Tycho Brahe mourut à Prague. Voudriez-vous, pour toute sa science, avoir comme lui un faune de cire ou d'argent? Tycho se consolait en Bohême, ainsi que Charles X, en contemplant le ciel. L'astronome admirait l'ouvrage. Le roi adore l'ouvrier. L'étoile apparut en 1572, éteinte en 1574, qui passa successivement du blanc éclatant au jaune rouge de Mars et au blanc plombé de Saturne, offrit aux observations de Tycho le spectacle de l'incendie d'un monde. Qu'est-ce que la révolution dont le souffle a poussé le frère de Louis XVI à la tombe du Newton danois auprès de la destruction d'un globe accompli en moins de 2 années? Le général Moreau vint à Prague concerter avec l'empereur de Russie une restauration que lui, Moreau, ne devait pas voir. Si Prague était au bord de la mer, rien ne serait plus charmant. Ainsi Shakespeare frappe la Bohême de sa baguette et en fait un pays maritime. « Es-tu certain, dit Antigonus à un matelot dans le conte d'hiver, que notre vaisseau a touché les déserts de Bohême ? » Antigonus descend à terre, chargé d'exposer une petite fille à laquelle il adresse ces mots. Fleur, prospère ici, la tempête commence. Tu as bien l'air de devoir être rudement bercé. Shakespeare ne semble-t-il pas avoir raconté d'avance l'histoire de la princesse Louise, de cette jeune fleur, de cette nouvelle Perdita, transportée dans les déserts de la Bohême ?